7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
En passant, on a vu ta face hier au théâtre d'Apple dans la présentation des nouveaux produits.
J'attends encore les bénéfices de ça, Paul. Des retours, un appel d'Hollywood, quelque chose,
oui,
une rentabilité.
C'est ça.
Une augmentation de salaire.
Ben non, je ne sais pas, mais évidemment, pour les gens qui, pour bien vous situer, c'est à la présentation des produits Apple et le Apple News, là. Alors, on a défilé sur grand écran une série de magazines, dont celui où Pierre-Yves faisait la une d'actualité. Alors, flip, à côté de magazines de bouffe, de vin, de jardin, paf!
C'est mon côté Alfred Hitchcock.
Hein? Un caméo comme ça lors d'une présentation.
Voilà.
Bon, ce matin, tu nous proposes une espèce de boule de cristal financière.
Oui, tu sais, on parle pas souvent de technique ensemble à la radio, mais là, il y a un côté technique de l'économie qui nous amène à une réalité qui est la nôtre, c'est-à-dire... Beaucoup de gens écoutent les économistes, là, les preachers de l'économie, disent où on s'en va, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je devrais faire. Mais il y en a qui disent, le meilleur économiste sur Terre, c'est la courbe des taux. Et là, il y a une corrélation d'habitude. Plus tu es investi à long terme, plus on devrait te payer parce que plus il y a une portion de risque. Et là, les marchés font en sorte que les obligations, lundi, au Canada, sur 10 ans, sont moins payantes, implicitement, si tu calcules en plus l'inflation et tout, que le placement 3 mois. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui se battent dans le moment pour acheter des obligations à faible prix, pas très rentables 10 ans, ce qui veut dire implicitement qu'on pense que ça va pas aller bien dans le futur, ou qu'il y a des signes de récession, ou qu'il y a des signes qu'on a de l'inquiétude. Et quand les investisseurs sont rendus à vouloir investir dans des obligations 10 ans à des taux laconiques, ben ça veut dire que, comme un investisseur, tu dis « Oh, dans le fond, ça signifie que peut-être qu'il va avoir les taux d'intérêt, là, le taux directeur de la Banque du Canada, on va se calmer, potentiellement qu'il n'y aura pas de hausse. »
Toi qui es l'expert, moi qui es l'étudiant, là, quand, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que quand je vois cette stratégie sur 10 ans, où on laisse entendre que le rendement n'est pas très élevé parce que l'économie n'irait pas très bien, que le rendement offert est plus important sur du court terme, ça veut dire qu'il y a des nuages gris au loin, là.
Bien, il y a des nuages gris où les gens croient qu'il y aura des nuages
aussi,
gris. Tu as tout à fait raison. C'est comme quand tu es sur le terrain de soccer. Tu mènes 2-1 en partie, il reste une demi-heure à la game, mais tu vois des éclairs de chaleur dans le fond. Là. Ça va toujours être des éclairs de chaleur ou il va y avoir la grosse tempête.
Mais tu fais quoi dans ces situations-là?
Bien là, tu te dis, ah ben là, moi je m'inquiète un petit peu moins pour la prochaine année de mon taux d'intérêt directeur, mon taux directeur. Parce que si c'est si laid au loin et que les indicateurs économiques sont un peu laids, peut-être que ça va calmer les ardeurs et de la Fed et de la Banque du Canada à augmenter le taux directeur et donc d'augmenter le taux d'intérêt court terme, implicitement que je paye sur du taux variable, tu comprends? Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on peut se dire, ah, côté taux d'intérêt, je risque d'avoir une pause la prochaine année. Ou peut-être même une baisse si ça va mal. Le mauvais côté de tout ça, c'est que si l'économie va mal, des récessions ou s'il y a des problèmes, il va y avoir moins d'emplois, moins d'activité, moins d'optimisme, l'optimisme du consommateur, tu comprends?
Mm-hmm.
Donc, il faut se protéger, mais il faut quand même sourire avec notre taux d'intérêt variable.
OK, mais es-tu mieux d'acheter à court terme si tu as acheté des trucs?
Ah non, mais là, c'est une autre affaire. Non, ce que je veux dire dans, par là, court terme, c'est plus du genre taux variable, pas court terme. C'est-à-dire, si tu gèles ton... Il y en a qui gèlent leur taux fixe 5 ans parce qu'ils ont peur de la hausse des taux d'intérêt dans la prochaine année. Ben une nouvelle comme celle-là semble te dire, ben moi, en tout cas, je suis variable puis ça me rend un peu plus à l'aise de
voir ça. Bon, là, tu veux pas parler de Caroline Néron encore ce matin, là?
Non, je veux parler de la faillite, du financement provisoire et du risque d'affaires.
Ça veut dire
d'ailleurs,
quoi?
C'est le titre de ma chronique. Ne parlons pas de Caroline Néron. Parce que là, hier, on parlait de financement provisoire. Je reçois des courriels. C'est quoi ça, du financement provisoire? Du financement provisoire, c'est quand quelqu'un te prête de l'argent en attendant que quelqu'un d'autre prenne le relais. Donc, hier, l'entreprise a obtenu 400 000 $ de prêt, qui est un espèce de crédit relais à 14 %. Donc, c'est relativement cher, mais pas cher pour la situation de l'entreprise. Et là, ça m'amène à tous ces modèles d'affaires-là. Oublions Caroline Néron, les bijoux, là. Regardons un commerce de détail qui est dans le trouble. Tu vas chercher du financement temporaire, mais tu vends quand même pas assez pour avoir des flux autogénérés suffisants pour générer de l'activité. Faut que tu développes des nouveaux produits. Faut que tu payes des employés qui demandent de l'argent. T'es en concurrence avec les autres. Le commerce de détail va pas bien. Les beaux commerciaux sont difficiles. T'as la concurrence d'Internet. Et tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Sincèrement. De me battre et de prendre tout ce risque d'affaires-là et de payer ces taux d'intérêt-là pour tenter de survivre. Parce que si une compagnie comme Berks, là, cotée en bourse, fait tu sais, en millions, le 114 millions de chiffre d'affaires et 11 millions, 12 millions de bénéfices nets, puis entre 5 et 10% de bénéfices nets depuis 2-3 ans. Ça veut dire que tu vas te battre tout ça, tu vas prendre tout ce risque d'affaires-là pour faire ce type de marge si ça va bien. Mais toi, tu as du rattrapage à faire. Tu sais, des fois, est-ce que ça vaut pas la peine, dans la nouvelle économie, de se dire, est-ce que je vais encore acheter des bébelles, en fabriquer, en designer pour en vendre? Tu sais, c'est un peu le même principe avec, tu sais, Maï Paiement avait probablement le même risque d'affaires au 10-30, c'est-à-dire, t'as un gros bail commercial, t'as des parfums, t'as des sacs à main. Est-ce que c'est faisable de bâtir une entreprise basé sur l'image de quelqu'un qui n'est pas de renommée internationale à très long terme aujourd'hui au niveau du détail, du design et de la confection de produits? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est souvent une avenue qu'on voit, là, les YouTubers, les vedettes, tu sais, pour se maintenir dans la vie, quand ils n'ont plus de produits culturels à offrir ou de grandes carrières, ces vedettes-là offrent parfois autre chose, c'est-à-dire une marque, des produits, du lifestyle. Mais ça vaut combien? Alors moi, comme comptable, Paul, je me dis, tu sais, s'il faut que je vende 1 million pour faire 50 000 de salaire, risqué. Y a-t-il moyen pour moi de faire 50 000 de salaire sans prendre de risque puis dormir la fin de semaine? Donc, c'est quand on est en affaires dans le détail maintenant, c'est une question à se poser.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. Il est 7h22.